À 16h17, bon lundi, bon début de semaine, bienvenue chez vous à Boulevard 102.1, bienvenue chez nous dans le retour. Deuxième séquence de calme après la deuxième tempête, moins 13 degrés. À Québec, présentement, on descend moins 18 ce soir et cette nuit, peut-être 1 ou 2 cm supplémentaires. Demain, sous les nuages, moins 12 degrés. Mercredi, moins 8, toujours nuageux. Retour du soleil par percée, jeudi, moins 5 degrés. Et presque mur à mur, vendredi, avec un maximum de moins 4. S'il y a quoi que ce soit sur les routes ou ailleurs, évidemment, on regarde ça avec vous autres au 88-971-1021. Beaucoup d'actualités. Vous dire que le Canada s'en va en finale. Victoire de 5-3 face à la Finlande cet après-midi. Peut-être vous mentionner qu'il menait ce match-là 4-0.
Jusqu'en début de troisième.
Exact. Mais ce qui retient l'attention, c'est du côté de l'aéroport Pearson à Toronto, des images spectaculaires. Et jusqu'à maintenant, comme bilan, on peut presque parler d'un miracle.
Oui, c'est un avion de Delta Airlines en provenance de Minneapolis qui, en atterrissant du côté de l'aéroport Pearson de Toronto, s'est carrément renversé les quatre fers en l'air. 80 passagers qui étaient à son bord. On parle de 8 blessés, dont une seule personne qui serait blessée plus sérieusement, mais on ne craint pas non plus pour la vie de cette personne-là. Les secours qui ont afflué, somme toute, assez rapidement. L'aéroport de Toronto qui a suspendu ses activités dans les minutes qui ont suivi.
Dès les premières images, on a fait le saut parce qu'on se demandait qu'est-ce qui s'est passé avec cet avion-là. Il est sur le dos! Il est sur le top!
T'sais, habituellement, en plein hiver, mais à cause des conditions, du vent ou peu importe, tu vas en avoir un qui va prendre le clos, puis chaque fois, c'est un peu stressant. Mais comment ça peut virer sur le top? Je pensais même pas que ça se pouvait.
Vous vous souvenez peut-être de lui dans les médias, entre autres ici chez Leclerc Communication. Il est pilote depuis plusieurs années et propriétaire de Chrono Aviation pour essayer de comprendre comment un avion de cette grosseur-là peut se ramasser sur le dos. On va aller rejoindre Danny Gagnon. Salut, Danny.
Salut, Danny.
Ça va bien?
Oui, merci, vous autres.
Oui, ça va bien. Est-ce-tu la première fois qu'on se parle de nos vies?
Ben, en ondes, oui, mais ouais, en personne, ben, je sais pas. Écoute, ça fait longtemps, certain. J'ai quitté Weekend en 2017, fait que je suis même pas sûr qu'on s'est croisés.
On a même pas passé proche de se croiser, fait que ben content, enchanté, pis tout. Maintenant, Danny, comment un avion peut se retrouver sur le dos de même?
Ben, écoutez, visiblement, tu sais, c'est pas ce que moi j'appelle un crash en aviation, parce que si l'avion s'était crashé à l'atterrissage, ben il serait pas en un morceau dans l'état où il est actuellement, puis on parlerait pas de blessés seulement, il y aurait des morts. Alors, il y a pas 50 options. Je pense que cet avion-là, puis écoutez, c'est tôt là, j'étais pas là, j'étais pas dans l'avion, mais c'est toujours difficile d'essayer de spéculer puis de parler vite puis d'avance, mais logiquement, cet avion-là était sur le sol, donc il s'était posé.
Oui.
Il était assurément aussi en décélération parce que un CRJ 900, ça c'est le type d'appareil dont on parle aujourd'hui. La vitesse à laquelle les roues touchent le sol, c'est à peu près 120 nœuds, ça représente à peu près 200 km/h. Alors, s'il y avait eu un impact dès le toucher à 200 km/h, l'avion se serait démembré tout simplement comme on l'a vu dans d'autres accidents souvent. Alors, c'est une journée venteuse aujourd'hui à Toronto. J'ai vérifié les dernières météos. Les vents, ils varient à peu près à 27 nœuds avec des rafales à 35. Ça équivaut à peu près à des rafales à 63-65 km/h. Alors, peut-être que l'avion a touché le sol, a décéléré. Et les avions, ça a une limite de vent de travers. Alors, encore une fois, je sais pas dans l'axe de la piste où se sont posés là, quel était le vent de travers, mais l'avion était peut-être très proche de sa limite et peut-être que les pilotes n'ont pas réussi à garder le centre de la piste. Et là, ça pourrait expliquer soit une rafale de vent qui les déporte, un aile qui touche un banc de neige d'un côté, puis là, le vent prend sous l'autre aile, puis ça peut renverser un avion. C'est assez fort, des rafales. Puis tu sais, un avion, ça a de la portance. Alors, si c'est encore en train de rouler, peu importe la vitesse qu'il y avait, si vous ajoutez à ça la superficie de l'aile avec une rafale qui pourrait prendre en dessous de l'aile, ça pourrait expliquer le renversement de l'avion. Maintenant, dans un accident d'avion, il y a rarement juste une cause. c'est souvent le concept, on appelle ça le concept du fromage suisse, parce qu'il y a plusieurs tranches avec le trou à même place qu'on finit par passer à travers. Alors, depuis des années, puis je vous dis pas que c'est ça, mais mettons qu'on spécule ensemble, depuis plusieurs années, mettons que l'expérience dans les cockpits va pas en augmentant. Ça va beaucoup en diminuant. C'est comme ça depuis 10 ans au moins. Vous avez certainement entendu parler de la pénurie de pilotes.
Exactement. Il y en a plusieurs qui sont partis à la retraite, puis on est en train d'essayer de renflouer tout ça avec des plus jeunes.
Exact. Mais ce que ça a créé beaucoup, c'est que les minimums d'embauche ont descendu de façon drastique. Tu sais, il y a 10 ans, pour entrer chez Air Canada, ça vous prenait 4000 heures de vol. Aujourd'hui, à 1000 heures, tu vas être assis à droite dans un cockpit. Les avions sont de plus en plus technologiquement avancés, donc c'est un informaticien peut piloter. C'est moins technique que ça l'a déjà été, mais à l'époque, quand même, les pilotes, il y avait des années d'expérience comme pilote de brousse, il y avait des mains, il y avait piloté dans le nord, dans des conditions infernales. On a moins ça aujourd'hui dans les cockpits. Donc, peut-être que l'expérience dans des conditions qui étaient pas parfaites, qui étaient assez extrêmes aujourd'hui avec des vents, là, ajouté à ça une décision qui peut être mauvaise aussi de la part des pilotes d'avoir quand même tenté un atterrissage alors que les vents sont peut-être à la limite, comme je vous dis, de l'avion. Au lieu de faire ce qu'on appelle communément un overshoot, une remise des gaz pour surprendre. Alors, là, on est rendu à deux facteurs. Puis là, vous ajoutez à ça une rafale de vent qui est peut-être arrivée juste au mauvais moment, à 65 km/h de rafale. Puis l'avion qui dévie un côté, tu sais, au lieu de garder le centre de la piste, l'avion peut-être dévie un peu. Ouais. Puis là, il y en a eu beaucoup dans les derniers jours. Fait que j'ai pas vu les conditions de sur les côtés de la piste, mais forcément, il y avait probablement plus de neige aujourd'hui que dans les dernières semaines.
T'as raison, Toronto a été paralysé pendant je sais pas combien de jours.
Ben c'est ça. Alors, normalement, quand on se pose, les remblais sont nettoyés, puis il y a de la place en masse pour que les ailes puissent survoler le côté des pistes. Mais dans une semaine, comme on vient de vivre, où il y a eu plusieurs bordées consécutives, ben on peut penser que les remblais sur le côté des pistes étaient peut-être aussi anormalement hauts. Ce qui fait que si l'avion a déporté, ben ça pardonne moins que ça aurait dû pardonner s'il n'y avait pas eu autant de neige qu'il y en avait aujourd'hui. Donc là, sur les images, on voit que l'avion est renversé. Il y a sans doute une des ailes qui est arrachée. Donc on peut penser que pour que l'avion se retourne, forcément, il a fallu qu'une aile touche ou flippe ou arrache de là. Ça arrache pas tout seul. Fait que moi, je pense qu'ils ont frappé, ils ont dû déporter sur le côté de la piste. Mais l'excellente nouvelle dans tout ça, là, c'est que, ben, premièrement, Denis, tu l'as dit, c'est un miracle. Je veux dire, un avion qui est sur son toit puis qui est pas démembré, c'est rare qu'on voit ça. Un avion, c'est fait en peau de fesse. Je veux dire, c'est fait pour être léger. C'est de l'aluminium avec de l'isolant. Mais comme je le disais tantôt, s'il y avait eu un impact le moindrement violent, cet avion-là serait pas en un morceau. Donc, le miracle en partant, c'est qu'il n'y a pas de mort dans cet avion-là. Puis la bonne nouvelle, c'est qu'on va pouvoir parler aux pilotes.
Ouais.
Les gars vont pouvoir être rencontrés. Tu sais, généralement, on est obligé de se fier sur des boîtes noires, puis sur les dernières communications, puis sur les données techniques recueillies par les boîtes. Là, on va avoir tout ça. On va avoir les données techniques, on va avoir les pilotes qui vont pouvoir donner une entrevue. Il va avoir des témoins qui étaient dans l'avion. Il y a sans doute des caméras de surveillance aussi à Pearson qui vont avoir capté les secondes suivantes la première fois que l'avion a touché le sol. S'il y en a, je dis, mettons qu'ils ont fait un bond, mais s'il n'y a pas eu de bond, c'est quand l'avion a touché le sol, il y a des caméras qui pointent vers les pistes. Donc, dans les prochains jours, on va certainement en apprendre un peu plus sur ce qui a pu mener cet avion-là à se renverser. Mais disons que, tu sais, on a nommé en quelques minutes rapidement 3-4 causes possibles. L'expérience, le vent, mauvaise décision, la neige qui n'est pas supposée être là, puis il y en a beaucoup. Fait que si on additionne tout ça, on arrive à un scénario ou à des... on met des tranches de notre fromage suisse une en arrière de l'autre qui fait qu'on passe à travers, puis il arrive un incident.
Hey Danny, dis-nous, quand il y a des conditions météo difficiles, qui a le dernier mot sur l'autorisation d'atterrir? C'est-tu le pilote dans l'avion ou c'est à tour de contrôle? Comment ça fonctionne?
Ben en fait, l'autorisation d'atterrir, elle vient des contrôleurs, mais le contrôleur, il va toujours t'autoriser. Lui, si sa piste est dégagée, puis que la séquence fait qu'il y a de la place pour toi, tu vas toujours être autorisé.
Ça va pas plus loin que ça, là.
Non, la décision ultime d'atterrir ou non, c'est le capitaine qui la prend. Donc, à un moment où tu dois prendre une décision à savoir est-ce qu'on poursuit cet atterrissage-là, parce que, tu sais, avant d'amorcer la descente, tu as pris la dernière météo à destination. Fait que là, tu es dans ton cockpit, tu prends ta météo, on appelle ça l'attis. Puis là, tu reçois le fait que, oh, il y a des rafales à 63 km/h. Oh, les vents sont de travers. On appelle ça un crosswind dans le domaine. Fait que là, c'est crosswind à 25 degrés. Là, tu regardes tes limites. Ça marche ou ça marche pas. Si ça marche pas, ben tu déroutes à quelque part où ça va être correct. Puis il y a les limites de l'avion, puis il y a tes limites aussi en tant qu'humain, en tant que pilote. Fait qu'il faut savoir reconnaître ça aussi. Fait que
c'est une erreur.
Ça peut être une erreur, comme je dis. Ça peut être juste ça. Ça peut être d'avoir pris une décision de OK, on y va, on le fait, alors que c'était trop limite. Ça peut être carrément pas ça. Ça peut être les conditions étaient quand même très bonnes. On était loin d'être proche des limites de l'avion, mais il y a une erreur qui s'est commise une fois qu'on a touché le sol. Ça peut être rien de tout ça, puis l'avion a juste dérapé parce qu'il y a un problème mécanique qui est arrivé, exemple en mettant ce qu'on appelle les reversers pour freiner l'avion. Si quand ils ont voulu déployer les reverse, il y en a un qui n'a pas sorti, ben soudainement, ça crée une traction d'un côté plus que de l'autre. Puis là, l'avion pourrait avoir dévié subitement de sa trajectoire pour aller frapper les côtés, le bord de piste, comme je l'expliquais tantôt. Donc, tu sais, il y a plusieurs éléments. Fait que ça peut être une erreur, ça peut être mécanique, ça peut être technique, ça peut être le vent. Mais pour répondre à la question de Denis, qui a le dernier mot à savoir est-ce que je me pose ou pas, c'est le capitaine.
Hey Danny, merci beaucoup d'avoir pris le temps de nous vulgariser tout ça. C'est vraiment très apprécié.
Toujours un plaisir.
Bye-bye.
Bye.
Bye.
Danny Gagnon, qui est pilote depuis plusieurs années, qui est propriétaire de Chrono Aviation, puis qui a travaillé pendant de nombreuses années chez Leclerc Communication. Puis je trouvais ça drôle, puis c'est pour ça que j'ai ouvert la parenthèse. Tout le monde dit que c'est petit, le monde merveilleux des médias à Québec. Pas mal sûr que c'était la première fois de nos vies qu'on se parlait, que ce soit d'un corridor ou que ce soit en onde. Mais il y a raison de dire, puis écoute, ça prend pas de connaissance en aviation, mais c'est un miracle qu'un avion se retrouve dans cette situation-là sans que ça ait dégénéré davantage là, d'une façon ou d'une autre.
À cette heure-ci, on est encore beaucoup dans les hypothèses, mais dans les dernières minutes, le Bureau de la sécurité dans les transports du Canada a bien sûr confirmé qu'on envoyait une équipe pour enquêter sur l'accident en question qui s'est déroulé un petit peu plus tôt cet après-midi. Pour ceux qui ont manqué le départ, c'est un avion qui s'est flippé comme une crêpe à l'aéroport Pearson, un avion qui arrivait du côté de Minneapolis. 80 passagers à l'intérieur, 8 blessés, dont une personne blessée plus sérieusement, dont on ne craint pas pour la vie. J'en reviens comme pas encore de faire cette nouvelle-là en disant que c'est pas plus dramatique que ça. Ben, tu fais-tu un maudit saut quand ton avion vire de bord?
Écoute, il y avait raison de nous dire, habituellement, pour expliquer les circonstances d'une histoire comme celle-là, faut que tu parles à des boîtes noires. Tu sais, là, les pilotes ont survécu, ça change la donne, puis oui, on devrait avoir, au-delà des hypothèses, à un moment donné, probablement qu'on va avoir la bonne explication.
Puis tu sais, quand un avion atterrit, t'as tout le temps le moment où ils disent « Gardez vos ceintures de sécurité attachées tant et aussi longtemps que la lumière... » Je fais partie du monde qui l'enlève au plus sacrant, la foutue ceinture. Je peux te dire que je le vois vraiment pas de la même manière à ce moment-ci. Puis tu sais, on saura avec l'histoire à quel moment ça a flippé exactement. Mais c'est un miracle. Donc, il y a plein de vols qui étaient à destination de Toronto qui vont être envoyés vers d'autres aéroports, entre autres l'aéroport de Montréal, qui a averti qu'il connaîtra un achalandage plus important que ce qui était prévu. Fait que si vous êtes censé partir en voyage, là, je sais qu'il y avait déjà beaucoup de vols de retardés à cause de la météo, là, dans différents secteurs. Disons que ça va causer des petits problèmes.
Il est 16h31. C'est assez. L'hiver, là, on a le droit de commencer à rêver à l'été, puis c'est ce qu'on va faire dans les prochaines minutes. Parce que le Festibiaire, cet été, vous réserve encore plus de fun avec, entre autres, Clay and Friends qui vont être là le 27 juin à Lévis et le 14 août à Québec. Évidemment, on ajoute le vin, les spiritueux, la bonne bouffe, le Festibiaire, c'est bien plus qu'un festival de bière. C'est devenu une classique incontournable sur les deux rives. Et cette semaine, on a pour vous des accès hebdomadaires à vous donner, incluant l'accès à la dégustation, un bracelet et un Festicop, boulevard 102-1 et le Festibiaire qui célèbre leur association pour un été plus de fun, plus de saveur, plus de diversité. On commence à rêver. On a deux accès hebdomadaires pour vous autres, incluant l'accès à la dégustation, le bracelet, le Festicop. 418-971-1021, 418-971-1021. Votre nom, votre prénom. Bonne chance.
Gravel. Gravel. Dans le retour.